C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Alors, premier sujet pour les commissaires ce matin, est-ce qu'il faut laisser plus de place au privé en santé? François Legault dit que ça pourrait représenter à peu près 20 % Luc?
Bon, d'abord, il faut voir c'est quoi la santé. Le privé, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Dans ce cas-ci, il semble que c'est une opération de délestage, d'opérations bien précises, genoux, cataractes, etc. La deuxième chose, c'est que les clients ne paient pas de suppléments pour leur opération. Donc, c'est pas une privatisation du système de santé. Maintenant, il y a des dangers à ça quand même. Il y a des dangers quand même. L'opposition hier a été efficace à décrire les dangers. Arsenault a dit où vous allez prendre le personnel. Si la santé, le privé augmente, tu sais, entendons-nous, là, le personnel, c'est des infirmières puis des médecins. On en invente pas. Là. On sait exactement combien les universités en produisent par année. On cherche à en recruter à l'étranger. Après ça, plus cette opération-là va durer, plus ils vont venir en chercher dans le public. La deuxième question, puis c'est Montsref Desragis qui l'a dit, c'est un abandon de gestion. Parce qu'il n'y a pas d'outils particuliers de la part du privé. Là. Le privé a les mêmes équipements, les mêmes obligations de santé à faire, les mêmes procédures, le même personnel. Où est sa marge de manœuvre? Sa marge de manœuvre, c'est dans le personnel administratif, les horaires, la capacité de faire pression sur les médecins pour la productivité. Et ça, c'est ce que le public n'arrive pas à faire. Donc, c'est un abandon de gestion de la part de l'État au public.
Nathalie?
Ouais. Moi, je dis oui, le privé en santé, mais en préservant l'universalité du réseau. Peu importe son revenu, le milieu dont on vient, le système de santé doit demeurer accessible. Et je pense qu'il faut parler de ce sujet sans se braquer. Il faut le faire de façon décomplexée et sans dogmatisme. Pourquoi? Parce que c'est probablement une solution. Elle est présentée comme ça par le gouvernement. C'est probablement une ou la solution qui permettrait de redonner de l'oxygène au réseau de la santé. Une des grandes révélations de la pandémie, c'était de constater à quel point notre réseau de la santé est fragile et il faut lui redonner un petit peu d'oxygène. C'est le mot qui me vient spontanément à l'esprit. L'autre chose qui m'a frappée dans la déclaration du premier ministre, c'est le 20 % Le premier ministre qui dit 20 % des solutions passent par le privé. Ça vient d'où, ça, le 20 % c'est comme les tarifs d'hydroélectricité. Le premier ministre hier dit, ça sera pas 5, ça sera pas 4. Ben oui, mais monsieur le premier ministre, monsieur Legault, vous prenez ça où? Alors, le 20 % mérite d'être précisé. Puis, comme tu l'as dit, Luc, le privé en santé, ça veut dire quoi concrètement? Est-ce que ça veut dire que c'est confiné aux chirurgies? Est-ce qu'on garantit avec la présence du privé en santé qu'un patient va subir son opération dans un délai raisonnable? Qu'est-ce qu'un délai raisonnable? D'ailleurs, il y a plusieurs questions qui se posent, mais c'est intéressant qu'on fasse le débat parce que le débat sur la présence du privé en santé, moi, je suis d'accord avec le principe. Cependant, il ne faudra pas oublier l'autre défi qu'aura relevé le secteur public, c'est celui de s'adapter, d'être plus efficace, parce que il faudra, dans le fond, l'effort ou l'attention qu'on va porter à définir ce que sera ce 20 % du privé en santé ne doit pas occulter le défi qui attend le système public, qui est celui, effectivement, de se moderniser, parce que on dit que le privé va apporter davantage d'efficacité au secteur public. Ça, c'est en théorie. Il n'y a pas d'automatisme en disant, bien, plus de privé en santé, ça va se traduire par plus d'efficacité pour le public. Il faudra que le public aussi, avec que le ministère de la Santé, avec les syndicats, les corporations de médecins, les autres professionnels, puissent redéfinir ensemble comment le public, lui, peut profiter de cette occasion pour se repositionner puis effectivement offrir des services de meilleure qualité.
Luc? Moi, si j'étais l'État, là, je me ferais accompagner d'une petite centaine d'avocats quand j'irais signer le contrat. Parce que 2-3 autobus d'avocats. Parce
Pourquoi?
Ben, regarde. T'sais, ils sont là pour faire de l'argent, là, les cliniques privées. Hein. Ils s'en cachent pas. Là, c'est ça leur objectif. Imagine-toi, quels vont être les extras? Hein? Un cas complexe. Est-ce que les cas complexes vont être retournés au public? Ah non, toi, c'est trop compliqué. Tu retournes au public. La convalescence. Les offres qui vont être faites aux clients pour savoir, en termes de convalescence, en termes d'ergothérapie, en termes de bonification.
Là, sauf erreur, dans ces cas-là, c'est des chirurgies d'un jour. Là. Ils partent, envoyé dans les cliniques.
Tout ça. Ouais. Moi, je te signe un papier que tu vas là, puis tu repars avec un ensemble d'offres alléchantes. sur ce qu'il faut que tu fasses dans les prochains mois, puis voici le numéro de téléphone où appeler s'il y a des problèmes, puis si jamais tu veux avoir telle prothèse, ça c'est tant, puis si tu veux avoir telle autre, fait de la lumière, ben ça c'est plus cher. Mais je pense que le privé va faire ça. En tout cas, moi, les rares fois où j'ai été en contact avec des gens qui sont allés au privé, c'est ça qui s'est passé. L'autre chose, c'est que...
Ben Luc, permets-tu que je réagisse là-dessus?
Ben oui, bien sûr.
Parce que t'as raison, l'argent, c'est le nerf de la guerre. En fait, il faut que le privé devienne une espèce de sous-traitant du réseau public et non pas un compétiteur du réseau public. Parce que s'il devient effectivement un sous-traitant, là, tu peux baliser davantage les coûts associés à telle ou telle opération parce que tu as absolument raison. Ils sont pas dans le business de la charité, puis c'est correct, là. Je lisais ce matin une entrevue qu'a accordé Michel Clair à Radio-Canada. Tu peux très bien faire cohabiter des cliniques privées spécialisées dans des opérations X, Y, Z avec un réseau public où les hôpitaux vont effectivement être dégagés de cette responsabilité qui pourrait, elle, incomber au privé. Donc, cette espèce de complémentarité qu'il faut développer plutôt que les mettre en compétition. Comprenez ce que je veux dire?
Oui, mais prends l'exemple des... Son sort, c'est la santé, mais en parallèle un peu. OK, tu as besoin de psychologues pour suivre des gens. OK, t'en as pas assez dans les CLSC, t'en as pas assez, la liste d'attente est interminable. Peux-tu faire un deal avec des psys privés qui vont accepter de voir tant de patients à tant de l'heure par semaine?
Voilà.
Oui, mais
voilà.
Les psychologues, c'est le meilleur exemple parce que c'est juste ça. C'est-à-dire que le public est quasiment incapable d'en avoir. Vous vous rappelez,
ben oui.
Les stages là récemment à l'Université de Montréal, les stagiaires ne voulaient pas aller au public. Alors, c'est clair que c'est le cas, là, mais... Si le privé fait ce qu'il fait d'habitude, on écrème les cas, on prend les cas les plus faciles, qui rapportent le plus, parce que tu sais, quand tu vas à l'hôpital, tu vas aller à l'hôpital au CHUM, mettons, il y a une travailleuse sociale, là. Quand une personne sort de l'hôpital, souvent, ils sont tellement poqués, ils sont tellement perdus que c'est une travailleuse sociale qui dit, avez-vous quelque part où aller? Oui, puis comment on va... Oubliez pas ces médicaments-là, puis là, un contact. C'est pas ces clients-là qui vont aller au privé, là. Ces clients-là vont rester au public. La charge de travail pour le public, on pourra jamais comparer un cas avec le public avec un cas avec le privé. C'est comme les écoles privées, ça. Les écoles privées, ils prennent les meilleurs, puis les écoles publiques prennent les autres. Puis des fois, il y a des meilleurs dans les écoles publiques, mais pas tant que ça. Fait que là... Après, tu vas comparer, tu vas dire, le privé a fait 25 opérations, le public n'a fait juste 8. Mais il faudrait pondérer, voir la complexité des cas. Alors, c'est une bonne chose pour faire du délestage. J'en vois 1000 personnes se faire réparer le genou. C'est pas une bonne idée à long terme.
Ben c'est-à-dire que non, moi au contraire, je trouve Luc que il y a un défi de bien circonscrire le rôle du privé. Moi je vois très bien une espèce de contrat social entre le ministère de la Santé et le secteur privé pour redéfinir dans le fond repositionner le réseau de la santé. Étant entendu que l'objectif qu'on poursuit, on s'entend là, c'est pas une question de l'objectif ou de structure, c'est une question de dire comment un patient peut être traité pour obtenir en fait sa chirurgie ou sa consultation dans un délai raisonnable. Faut jamais perdre ça de vue là.
En fait,
ça, c'est fondamental. Mais un dernier exemple que je vais vous donner pour illustrer très très rapidement l'hérésie là de certaines situations, la CNESST qui refuse un travailleur d'être opéré au privé mais qui accepte de l'indemniser pendant un an et demi, alors que l'opération 15 000 dans le privé permettrait aux travailleurs de revenir plus rapidement sur le marché du travail, puis, comprenez-vous, soulagerait la CNESST de ses obligations d'indemniser. Ça, c'est un autre exemple qui illustre que le privé, effectivement, parfois peut être fort utile.
Oui, et d'ailleurs, il y a beaucoup de privés actuellement là, dans le système. Une clinique privée avec des médecins privés, les médecins sont des entreprises, puis la clinique est gérée par un propriétaire, il y a déjà beaucoup de privés. Mais la vraie question sur le privé, donc la place du privé doit être étudiée plus en profondeur. La vraie question sur le privé, c'est est-ce qu'on veut qu'il y ait un surplus payé par des individus qui sont capables de payer ce surplus-là et qui sont couverts par des assurances qui sont privées. Je sais que tout le monde dit non. En France, le système de santé est classé toujours dans les 7 meilleurs pays au monde. Ils font ça. Ils ont un système public qui est... Nous, on est classé entre 17 et 30 à chaque année. Alors, je dis pas qu'il faut le faire. Vous me connaissez, là, je suis pas un promoteur du privé. Mais il faut aller au-delà de juste cette opération de délestage et réfléchir à la place du privé, comme tu le disais, Nathalie, en se posant les questions, dans l'avenir, on fait quoi?
On s'arrête pour la pause. Ça, c'est l'avenir vraiment immédiat. Et au retour, on va parler du discours du président Zelensky et quel est le rôle vraiment du Canada dans cette crise actuelle.
La commission Normando-Ferrandaise.
Alors, discours du président Zelensky hier au Parlement canadien qui a dit essentiellement si Vancouver était bombardé puis la tour du CN tombait, quelle serait votre réaction, vous, Canadiens? Alors là, il y a certaines avancées sur le plan diplomatique, mais en gros, est-ce que cette intervention, ce discours va changer la façon dont le Canada intervient dans le conflit actuel? Nathalie.
Malheureusement non pour le président Zelensky, pour le peuple ukrainien. Pourquoi? Parce que le gouvernement, tout comme les pays de l'OTAN, ne veut pas s'impliquer directement dans cette guerre qui serait l'équivalent là d'une troisième grande guerre. D'où le refus du Canada pour une xième fois de répondre positivement à la demande du président qui veut une zone d'exclusion aérienne. En fait, à dire oui, une zone d'exclusion aérienne, ça voudrait dire d'entrer en guerre directement avec la Russie. Alors, évidemment, on se garde bien de le faire. Cependant, si la position du Canada ne change pas quant à l'aide, quant à la façon dont ce conflit, quant à son implication directe dans ce conflit, ce qui pourrait changer cependant, c'est la façon dont il accueille les réfugiés. Et le Canada pourrait devenir exemplaire en la matière. Et moi, je ne m'explique toujours pas pourquoi tant de tracasseries administratives pour les réfugiés. Je vous rappelle, ils doivent remplir leur demande pour venir au Canada par via Internet. Après ça, ils doivent donner leurs données biométriques. Alors, une solution très simple, c'est Air Transat hier qui a levé la main et qui a dit, nous, on est prêts à analyser des avions pour aller chercher en Pologne, par exemple, les réfugiés. Alors, pourquoi ne pas accepter cette offre d'Air Transat et pourquoi ne pas faire tout ce travail de tracasserie administrative sur une base militaire, par exemple, à Trenton, en Ontario? Et c'est pas moi qui le dis, il y a d'ex-militaires là, qui supportent cette idée-là publiquement, en disant effectivement, on pourrait très bien faciliter la sorte, pour tous ceux et celles, évidemment, qui souhaitent venir au Canada, on pourrait faciliter leur vie en s'assurant que la façon dont on assure leur transport vers le Canada soit beaucoup plus simple et beaucoup moins stressant pour eux.
Luc, c'est Trudeau qui a invité Zelensky à prendre la parole. Hein. La semaine passée, il a dit, après son voyage en Lituanie, il a dit il va prendre la parole au Canada, etc., etc. Pourquoi il a fait ça? D'abord, Zelensky a commencé en disant « mon ami Justin ». Puis M. Trudeau a le tutoyé aussi en parlant aussi de son ami. Ça, ce sont des opérations que je trouve lamentables. Je trouve que c'est du gros, gros, gros marketing. D'ailleurs, le Parlement était plein à craquer, les applaudissements, les vivas. Mais en bout de ligne, quand la lumière est fermée, quand le gars passait l'aspirateur là, le soir, là, les lumières étaient fermées, il s'est passé quoi? Qu'est-ce qui s'est passé devant nos yeux? Là? Rien. R-I-E-N. Rien de rien de rien. Il n'y avait d'ailleurs pas une possibilité qu'il se passe quelque chose. Puis Zelensky, qui essaie de toucher l'Occident en disant, ils n'ont pas dû comprendre, je vais prendre des exemples dans leur pays, la tour de CN, il a parlé de Montréal, etc. Parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe dans mon pays. Mais oui, tout le monde comprend ce qui se passe. Là. Tout le monde le comprend, 4 plus ce qui se passe, mais la décision a été prise de ne pas aller plus loin. Et est-ce que ce serait une bonne idée d'aller plus loin? Bon, Zelensky, lui, et Klitschko, le maire de Kiev, ont dit, nous autres, on est prêts à mourir jusqu'au dernier. Dans cet état d'esprit-là, ils veulent que le reste du monde s'engage. Mais nous, est-ce qu'on est prêt à mourir jusqu'au dernier? Est-ce que nous, pour cette guerre-là, on veut aller plus loin? Est-ce qu'on veut engager l'OTAN? La réponse, c'est un gros non, là. N-O-N, non. Il faut trouver une autre solution. À partir du moment où la réponse, c'est un gros non, de la part de l'OTAN, là. Pas de la part de Luc Ferrandez dans un studio, de la part de l'OTAN. Mais arrêtez de l'inviter partout. Et proposez-lui quelque chose d'autre. Soit il est sur le bord de gagner, puis c'est pas impossible, parce que ça se passe très, très mal pour les Russes. Puis on leur donne des équipements. Hier, l'armée ukrainienne a bombardé avec des missiles sol-sol. La base d'hélicoptères de Kharkov a descendu 4 hélicoptères russes. C'est jamais vu, jamais ça serait vu avec des fusils puis des bombes. Là. C'est du matériel de grande précision qui a permis de faire ça. Donc, soit il est sur le bord de gagner, avec l'aide de l'Occident, soit il est sur le bord de gagner sur le terrain, mais les villes vont se faire bombarder, descendre, détruire comme à Grozny puis à Alep. Puis là, il faut trouver une porte de sortie. Mais pas juste l'inviter puis dire « Hourra, hourra, hourra » puis après on fait rien.
Oui, mais ça démontre la présence de Zelensky hier au Parlement d'Ottawa, celui de la Grande-Bretagne également. Il est aujourd'hui là, il s'adresse devant le Sénat américain. Ça démontre à quel point cette façon de faire ce conflit est atypique à tout point de vue. Tout d'abord, le recours aux réseaux sociaux, c'est incroyable. Là. Moi, j'ai jamais vu ça. Là. Zelensky qui se promène dans les rues, qui va voir les soldats blessés, qui interpelle le monde entier avec les réseaux sociaux, la désinformation qui existe dans cette guerre et également à tous les jours, à quel point point la Russie, entre autres, mais peut-être aussi un peu l'Ukraine, transgresse le droit international, le droit humanitaire international. Zelensky, c'est un communicateur absolument incroyable. Le discours qu'il a livré hier, il est touchant, il est percutant. C'est un discours qui va droit au cœur. Tu as raison, Luc, il a su choisir les bons mots, mais à la fin de la journée, effectivement, pour lui, pour son peuple, ça ne change pas grand-chose. D'où l'importance, selon moi, pour le Canada, d'assumer ce qu'il peut assumer, parce qu'évidemment, c'est même pas une puissance, là, le Canada, sur le plan militaire. C'est, oui, de devenir exemplaire sur le plan de l'accueil des réfugiés, mais c'est aussi d'assumer un leadership sur la scène internationale en cette matière, entre autres à l'ONU. C'est un scandale de voir que les couloirs humanitaires sont transgressés, ne sont pas respectés par la Russie. Il faut trouver une façon d'évacuer de façon la plus sécuritaire possible tous ces civils. Il y a des images qu'on écoute, on n'en peut plus de voir les personnes âgées, les enfants. Hier, je disais là, que l'UNICEF a déclaré qu'il y a 7,5 millions d'enfants ukrainiens qui sont menacés avec ce conflit. 97 enfants déjà qui ont perdu la vie. Puis on parle même pas des personnes âgées qui sont évacuées en marchette. Là. C'est incroyable. Alors, effectivement, mais c'est désolant, Luc, parce que le discours de Zelensky, au-delà de son talent incroyable de le livrer, ça révèle toute l'impuissance, son impuissance à lui comme premier ministre de l'Ukraine, mais toute l'impuissance de l'OTAN face à ce conflit qu'on ne souhaite pas qu'il dégénère au-delà des frontières de l'Ukraine.
En tout cas, l'encouragement à la guerre, ça se pourrait que l'Ukraine soit sur le point de gagner, comme je le disais, puis que même il paraît que des territoires qui ont été pris, ont été notamment autour de Mykolaïv, ont été repris par les Ukrainiens. Même dans l'Est, c'est des territoires qui sont repris par les Ukrainiens. Alors, y a-t-il une solution de guerre? Y a-t-il une solution militaire? Est-ce que c'est vrai que les Russes se désengagent Y a-t-il une solution militaire? S'il y a pas de solution militaire, on switch sur la solution d'armistice, puis au plus vite. Parce que là, il y a Lviv, il y a Kiev, puis il y a Odessa, trois villes qui sont à la fois patrimoniales, mais aussi qui sont bourrées de réfugiés au sein de l'Ukraine. Parce qu'il y a eu 2,8 millions d'Ukrainiens qui ont quitté le territoire, mais il y a des millions d'Ukrainiens qui se sont réfugiés dans des villes qui ne sont pas encore attaquées. Si ces villes-là sont attaquées, ça va être un carnage encore plus immense. Et on en prenait hier que la flotte de la mer Noire, 7 navires russes qui se rapprochent d'Odessa, qui se préparent à une éventuelle attaque, peut-être même une attaque amphibie, bien, là, il va falloir qu'on prenne une décision. Là. Est-ce qu'on va laisser ces trois villes-là tomber? Est-ce qu'on va laisser des millions de réfugiés qui se sont cachés dans ces villes-là être à nouveau attaqués? On peut pas juste être au Parlement canadien puis l'applaudir puis on va vous envoyer
La façon, Luc, d'éviter le carnage là, qu'on anticipe tous, c'est peut-être de neutraliser le rôle de la Chine dans ce conflit-là. Neutraliser.
Ça, c'est une bonne solution.
Ben tout à fait, parce que là, la Russie s'est tournée vers la Chine actuellement pour avoir de l'aide. Washington est en discussion avec Pékin. Alors ça, je pense que ça pourrait être une façon effectivement de minimiser les morts, les milliers de morts avec lesquels on compose. Mais en terminant, cette solution, la solution au conflit, elle va passer nécessairement par une solution négociée. Luc,
mais alors qu'on commence à le faire, qu'on arrête d'applaudir comme des crises de malades. Excuse-moi. Qu'on arrête de faire du marketing, puis qu'on commence à réfléchir à la solution négociée.
Merci à tous les deux, on va vous retrouver demain.
C'est 23.